Bonjour à tous, vous écoutez la Ligue des joueurs ordinaires. Bienvenue dans cette 15e émission de la Ligue des joueurs ordinaires, votre rendez-vous mensuel sur Radio Kawa. Et de quoi parle-t-on dans la Ligue des joueurs, Gomelon? Enfin, Christophe, vas-y, raconte-nous de quoi on parle dans la Ligue des joueurs.
On parle de jeux de société, de jeux de rôle, de jeux de plateau, de jeux d'ambiance, de GN, enfin de tout quoi.
Voilà, de tous les jeux de société qui sont de jeux de société, voilà, jeux de plateau, jeux de rôle, tout ce qui touche aux jeux de société dans son ensemble. On va encore une fois oublier le Monopoly et le Trivial Pursuit, hein, parce que bien que ce soit des jeux de société, ça reste un peu trop basique. On va s'intéresser aux jeux pour adultes mais aussi pour enfants et on va en parler aussi dans cette émission. Autour de moi, sur la table, enfin pas sur la table mais autour de la table, c'est l'émission de la maladie, hein, je préviens tout de suite, moi j'ai la voix un peu cassée, Satan à côté de moi est en train, à l'agonie, en train de boire son grog préparé par Christophe gentiment, donc ça sent le rhum, c'est parfait. Eh bien ça tombe bien, Satan, comment vas-tu?
Bon, ça, on fait aller.
À part la maladie j'entends.
À part la maladie ça va.
D'accord, c'est quoi ton poison en ce moment, à quoi tu joues?
Demeure l'épouvante, mais c'est un vrai poison et j'en parle un petit peu.
Ah oui, la V2, ouais, effectivement. Christophe, bonsoir.
Bonsoir.
Comment vas-tu?
Ça va très très bien.
Qu'est-ce que c'est? Comment? Enfin oui, quel est ton poison en ce moment? À quoi tu joues?
Oh là, c'est compliqué. Là, j'ai essayé il n'y a pas longtemps un jeu qui s'appelle Ulm. Un jeu de plateau avec cubes en bois, etc., qui est pas mal du tout.
Oh putain, ça connaît pas, mais les cubes en bois, je suis pas...
C'est un jeu allemand. Hein,
ouais. Ouais, voilà, c'est un gros jeu de comptage où tu mets 15 minutes pour jouer ton tour. Bref, au sommaire de cette émission, et oui, on n'est que trois aujourd'hui autour de la table, notre vaillant ingénieur son...
A déclaré forfait.
Kétrus a déclaré forfait, il s'est battu avec sa couette et sa maladie, et il a perdu. Donc on n'est que trois aujourd'hui, donc vous entendrez que nos douces voix cassées par la maladie, enfin, sauf Christophe qui un peu invincible apparemment.
Yes.
Donc au sommaire de cette émission, on va parler beaucoup de jeux de plateau puisque arrive dans un peu plus d'un mois
dans un mois,
je suis bête, le FIGE, le Festival International du Jeu de Cannes, donc un rendez-vous que nous on loupe quasi jamais depuis quelques années maintenant. On avait même fait une émission spéciale l'année dernière là-dessus, et bah, cette année on va la refaire d'ailleurs, on va retourner là-bas voir des auteurs, interviewer des gens, tout ça, ça va être cool. Et donc on est à la liste des nominés. On va en parler tous ensemble ici, pour ceux qui connaissent les jeux, donc surtout Christophe et moi aussi, et Satan aussi, on connaît quelques-uns. Ensuite, on partira en évasion rôlistique où Satan va nous présenter
Cops,
les flics du futur, les meilleurs flics du monde, et tout ça dans un univers américain créé par un Français. Donc tout va bien. Mais on va commencer tout de suite donc avec les coups de cœur, coups de gueule de nos chroniqueurs. Vas-y Christophe, lance-toi. Qu'est-ce que tu as à nous dire?
Eh ben moi je vais vous parler d'un jeu qui date pas d'hier, hein, enfin il date de 2015, donc il est pas si vieux que ça. J'avais complètement passé à côté. Et là je l'ai découvert il y a pas très longtemps. Il s'appelle 10 Minutes to Kill.
Ah ouais.
Et 10 Minutes to Kill, c'est de la bombe pour moi. C'est un très très bon jeu qui est rapide, qui se joue justement 10 minutes, un quart d'heure entre nous, parce que voilà, on va jouer un peu plus à l'opard, donc on va réfléchir. Mais c'est un excellent jeu qui est sorti d'abord en Kickstarter et qui maintenant se trouve dans les boutiques, hein, sans aucun problème. C'est un jeu de Benoît Bagnier, illustré par Pauline Détraz, édité par la boîte de jeux, hein, qui est aussi justement un éditeur qui a sorti trois jeux pour l'instant, dont je ne sais pas si tous sont sortis en Kickstarter, mais l'autre que je connais très bien, enfin que je connais, c'est Hot Live, qui est aussi sorti en Kickstarter. Et 10 Minutes to Kill, alors il a aussi eu pas mal de prix, je crois, en tout cas il a eu un très très bon accueil, il a atteint son budget x10. Hein. Et donc c'est un jeu qui se joue de 2 à 4 joueurs. Et pour celles qu'on trouve en boutique, hein, ceux qui ont trouvé sur Kickstarter ont des extensions, dont une qui permet de jouer à 5 joueurs. Et c'est un jeu qui est assez génial, j'aime beaucoup, où il faut, on va avoir 16 personnages posés en ville. On va chacun avoir un rôle caché, dont un des personnages, on est un tueur à gages. Et on doit, un, buter, on a 3 cibles qui sont cachées aussi, on les connaît mais les autres ne les connaissent pas. On doit buter nos cibles et essayer de découvrir qui sont les autres assassins, soit pour les arrêter, soit encore mieux, pour les buter.
C'est vraiment un vrai jeu de salopard, hein, pour le coup.
Complètement.
Par contre, c'est un jeu sur lequel tout le monde doit vraiment bien connaître les règles. Parce que comme tout se fait en jeu caché, en rôle caché, la moindre personne qui se trompe en tuant quelqu'un alors qu'il n'aurait pas pu le faire techniquement, il fausse quasi tout le jeu. C'est difficile.
Tout à fait, oui. Parce que, du coup, quand vous tuez quelqu'un, ça signifie que vous remplissez certaines conditions. D'où, c'est marqué dans les règles d'ailleurs, quand un personnage est tué, on désigne les suspects possibles. Donc, automatiquement, le tueur doit valider qu'il est dans les suspects possibles. C'est là où, quand tu as joué un peu trop vite, quand tu n'as pas très bien réfléchi, et que tu dis « Ah, je vais changer », et là,
c'est fini,
tu es dans la cible.
Ouais, mais ça fait partie du jeu. Tout le monde n'est pas un escroc comme Christophe, là, et ses potes, là, qui mettent 3 heures à réfléchir parce qu'ils ne veulent pas se faire choper. C'est normal qu'il y en ait un qui... Enfin voilà, tout le monde n'est pas un grand gamer hyper réfléchi. C'est aussi le jeu que tu peux jouer ça. Puis tu fais une connerie, oh merde, je suis mort. Et puis tu recommences.
Non, mais passer de 10 à 15 minutes, c'est pas non plus la folie. On passe pas 5 minutes à attendre un joueur. Hein. Ce qu'il faut, c'est un peu cogiter parfois parce que tu essaies de faire ton positionnement. Il y a du bluff, hein. Il y a beaucoup de bluff aussi là-dedans. Hein. Donc c'est vraiment c'est pas un jeu pour moi de réflexion. On est dans le bluff avec un minimum de stratégie parce qu'effectivement, il faut savoir comment on se positionne et ce que font les autres.
Ouais, clairement. Oui, vas-y.
Je voulais demander. En fait, c'est le jeu où tu as 3 personnages à déplacer sur la map, c'est ça ? C'est ça, dont un qui pète ta cible ou un qui pète ton personnage.
C'est pas vraiment ça. C'est que toi, tu as au début du jeu, on te désigne ton personnage et 3 autres qui vont être tes cibles. Donc l'objectif pour toi, c'est de tuer tes cibles déjà. Et ça rapporte un petit peu de points, mais pas beaucoup. Quand tu vas jouer, tu vas pouvoir déplacer n'importe quel personnage à travers de la ville et assassiner ou pas.
Oui, mais il y a une foule, c'est ça ? Il y a plein de personnages. C'est ça, il y a d'autres personnages. Passants innocents et que tu déplaces.
Que justement, c'est aussi généralement c'est la cible des autres, voire les assassins des autres. C'est ça qui est assez drôle.
Oui, j'avoue. C'est vrai qu'on avait testé ça en Belgique. Moi, j'ai bien kiffé pour le coup. C'est vrai qu'au petit jour, on est sur quel tarif ?
Un peu moins de 20 euros. Ouais, donc ça reste très, très, très raisonnable.
Très raisonnable. Ok, Satan, petit coup de gueule après le grog ?
Alors, j'ai un petit coup de gueule, ouais. En fait, donc, comme j'expliquais en début d'émission, moi j'ai acheté la 2e édition des Demeures de l'Épouvante, celle qui joue avec l'application. Mm-hmm. Parce que j'adore les jeux qui jouent en coop. Je suis l'ennemi intime de Gomelon. J'adore les jeux qui jouent en coop. Donc les applications, pour moi, c'est quelque chose de génial. C'est-à-dire qu'on peut enfin se passer du méchant MJ. C'est bizarre pour un rôliste, mais bon, voilà. On peut jouer ensemble dans des jeux normalement qui nécessitent donc Demeure de l'Épouvante en est un. Et j'attendais beaucoup de cette application. Et donc là, j'ai testé le jeu. J'ai tellement testé que j'ai fait tous les scénarios disponibles. Enfin, je voulais être sûr que ce que je pensais du jeu, en fait. Et je ne suis pas content. Voilà.
Pourquoi ?
Je ne suis pas content parce que, alors, je comprends l'intérêt qui est l'application. Je comprends qu'ils ne peuvent pas tout mettre dans l'application. Parce que c'est vrai que sinon, on n'a plus besoin du plateau de jeu et qu'on peut jouer directement. C'est un jeu sur l'ordinateur. Mais là, quand même, je trouve qu'il y a des trucs qui manquent. Déjà, il n'y a que 5 scénarios.
C'est peu.
Alors, le jeu te dit qu'il peut reprendre les anciennes versions, les anciennes boîtes d'extension que tu avais achetées. C'est vrai que quand tu fais un scénario, tu vas avoir, on va dire, une pièce ou deux pièces qui sont les aimants principales. Celles qui sont autour, à chaque partie, vont changer.
D'accord.
Tu vois, par exemple, le cimetière sera à droite, à la fois suivante, ça sera autre chose. Bon, bref. Par contre, au début de la partie, tu vas rentrer le nombre de personnages que tu as. Parce que tu peux choisir entre 1 et 5. Donc, moi, j'ai essayé à moins, puisqu'on était moins de joueurs. En fait, il faut jouer à 5. Hein. Faut pas se poser de questions, il faut avoir 5 personnages. Parce qu'ils ne règlent pas, par exemple, la difficulté par rapport au nombre de personnages. Tu mets le nom de ton personnage, donc normalement, il a des caracs, ses points de vie, etc. Le jeu en prend pas du tout parti, mais alors ils s'en foutent complètement. Ils s'en foutent même à un point qu'en fait, ils comptabilisent pas le nombre d'actions que tu as par tour. C'est-à-dire qu'une fois, j'ai fait un scénario, je l'avais raté, donc qu'est-ce que j'ai fait ? J'ai recommencé la partie, puis j'ai tout cliqué, tu sais, normalement, c'est par round, en fait. Tu fais 4 actions, tu changes, tu passes au round suivant, les monstres attaquent, tu rejoues tes personnages, tu vois. Là, j'ai juste mon premier personnage, j'ai cliqué à droite, à gauche, machin, pour voir les différents éléments. Les portes se sont ouvertes, j'ai visité tout et tout.
Ah, donc il continue pas à te faire jouer, voilà. Quoi qu'il arrive.
Il s'occupe pas de savoir si t'as des points de vie, si t'as des points de santé mentale, si quel personnage t'as pris, en fait, s'il a des capacités, tout ça, il en a rien à faire.
Oui, il enregistre rien, en fait, l'appli te guide juste à travers le scénario.
Voilà, en fait, c'est juste pour te montrer une map. Voilà, il te met un gros pion en te disant ici, il y a telle chose, à tel endroit, il y a un monstre. Donc tu vois la figurine qui est sur l'écran, en fait, et puis après, il la met plus dans la pièce. Hein. Il dit le monstre se déplace de 2 cases vers l'investigateur le plus proche. Donc c'est toi qui vas le déplacer sur ta table, en fait.
Ouais, mais ça reste logique c'est dans la façon.
C'est une application, le jeu coûte 100 euros. Voilà. Ouais, ok, voilà. Alors ok, il y a des tuiles, ok, il y a des figurines qui sont pas toutes top, machin. Le système de jeu est un peu dépassé, c'est la deuxième version. Pour moi, une deuxième version doit toujours être meilleure que la première.
Et là, okay. C'est pas le cas.
Là, c'est pas le cas. Je suis désolé, l'application, il manque quelque chose pour vraiment... Tu vois, je veux dire, j'étais pas déçu, mais quand je vois l'excitation que j'ai connue à l'époque où Monsieur Zeff avait acheté la première édition, nous faisait des longues parties merveilleuses le soir, j'attendais à avoir au moins ce petit frisson, tu vois, de Demeure de l'Épouvante, et je l'ai pas du tout, quoi.
Ouais, d'accord. Ouais, encore une fois, c'est Edge hein, qui fait ça. On dit ça parce qu'on se plaint beaucoup de Edge en général. Bon, ils font des bons trucs, des très bons trucs même, mais parfois quand ils font des trucs un peu moins bien, on en parle beaucoup.
Ce que les gens m'ont dit, c'est que faut attendre, c'est une appli, donc va y avoir une évolution, ils vont faire des mises à jour, etc. Mais bon, moi j'ai quand même claqué 100 euros, ça me fait chier, quoi.
Ouais. Et sans application, il est impossible de jouer.
Tu peux pas jouer.
Il y a pas un MJ qui peut prendre en main le scénario, tout comme ça.
C'est mort. Et même en plus, tu prends tes anciennes boîtes. En fait, toutes les petites plaques, les petites cartes d'équipement, etc., sont obsolètes.
D'accord. Voilà. Ouais.
Tu joues avec l'application. Alors après, quand tu as les anciennes boîtes, tu as un scénario en plus. Voilà, donc moi, j'en suis à 3 boîtes, donc 250 euros.
Ouais, voilà. Ouais,
ça commence à faire cher. 5 scénarios, et j'en ai un 6e que je pourrais acheter, mais je pense que là, je ne vais pas le faire.
Ouais, un petit peu du foutage de gueule pour piquer dans la bourse des gens, mais c'est un peu difficile. Mais effectivement, la première version, on avait que 5 scénarios de mémoire, mais au moins 3 variantes par scénario.
Tu avais au moins dans la première édition.
Je trouve que c'est 5. Au moins, tu avais plusieurs variantes, donc ce qui démultipliait ton nombre de cartes. Bon, c'était plutôt agréable. Ok, je vais me permettre un petit coup de cœur, moi, de mon côté, pour relever un peu la note sur un point positif. Je vais parler de Star Realm. Star Realm, c'est un deck building qui est sorti l'année dernière à Essen, si je ne dis pas de bêtises. C'est Waz qui m'en avait rapporté une boîte. Donc c'est un petit jeu de deck building de 2 à 4 joueurs hein, c'est peut-être plutôt sympa, tout le monde joue avec les mêmes cartes. Donc on pose toutes les cartes au milieu, on pioche 5 cartes sur le board et puis on les achète au fur et à mesure avec sa main. Bref, c'est assez simpliste hein, c'est très cool, mais c'est vraiment très cool. Voilà, c'est pas juste très cool, c'est vraiment très cool. C'est un très bon jeu et en plus pour ceux qui s'ennuient dans le RER ou dans le métro si vous êtes parisien ou même ailleurs, parce qu'il y a métro ailleurs, l'appli est gratuite. Alors, c'est un demi-coup de cœur. Elle est gratuite, mais pas totalement. Elle est gratuite sur Android, iPhone et autres devices. Mais voilà, elle est gratuite juste pour le mode easy et pour une petite partie de la campagne. On veut faire 5 parties, grosso modo, sur la campagne, qui raconte plus ou moins une histoire, et puis on peut jouer contre l'ordinateur en mode facile. On a accès à toutes les cartes, sauf les grosses extensions. Mais pour pouvoir jouer à tout le reste de la campagne en mode hard ou autre chose, il va falloir débourser un peu d'argent. Donc ça, c'est un peu gênant, mais ça permet au moins de tester le jeu, voir si on aime ça. Je n'ai pas encore débloqué le mode, moi, personnellement, mais je pense que je vais le faire dans pas longtemps. Pour le coup, ça rime. Là, ça reste un bon jeu. C'est un jeu de vaisseau spatial, hein, c'est assez cool. Donc voilà, mon petit coup de cœur, parce que ça fait plaisir de voir une appli qui est quand même gratuite et qui quand même permet de passer quelques minutes à jouer. Mais bon, après, on va voir si on aime ou pas le type pour débloquer. Oui.
Ouais, c'est pas justement un jeu où il faut aussi justement un peu plus dépenser à chaque fois parce que tu vas essayer d'acheter de nouvelles cartes, des nouveaux decks, etc.
Non, je pense que c'est pour débloquer tout le reste de l'application.
Même la version carte.
Ah,
c'est un jeu de base.
Il y a des extensions qui sont sorties.
Ouais.
Moi, dans la version que j'ai. J'ai tout dedans, mais après, je sais pas si les extensions. Oui, évidemment, les extensions. Après, c'est pas un JCC. Hein, tu collectionnes pas les cartes au hasard. C'est vraiment un deck building. Avec ça, tu peux complètement jouer. T'as rien à rajouter. Si tu veux racheter une extension comme Le Seigneur des Anneaux ou Game of Thrones ou ce genre de choses, tu peux le faire. Tu sais ce qu'il y a dedans. Parce que toutes les cartes sont accessibles dès le début. Il n'y a pas de construction de deck avant jeu.
Voilà, c'est aussi ce qui fait son principal défaut. C'est que, par exemple, pour moi qui aime beaucoup les deck building, il est trop simple pour moi. Parce que tout le monde va jouer avec ce qu'il y a sur la table. T'as rien à. Enfin. Tu choisis sur le moment tes combos, etc., comment tu joues, mais tout le monde a les mêmes cartes, en fait.
Oui, voilà. Ouais.
Donc voilà, tu choisis la manière dont tu joues, mais pas, tu prépares pas à l'avance. Ou
ouais, t'as une grosse part de chance entre ce qui va sortir au bon moment ou qu'est-ce qui va être pioché quand c'est ton tour de jouer. T'auras peut-être pas l'occasion de l'acheter parce que c'est le tour de l'adversaire, ainsi de suite. Bon, après, ça tourne dans ce genre de choses, mais c'est un jeu très agréable. Puis c'est un petit jeu apéro, j'ai envie de dire, un peu plus élevé qu'apéro, mais voilà. Ok, on va passer au gros morceau. Pardon. On va passer au gros morceau de l'émission avec Christophe qui va nous parler du Fige.
Oui.
Allez, lance-toi.
Et donc voilà, donc c'est sorti tout récemment, hein, c'est sorti jeudi dernier, enfin jeudi en 8. Donc nous avons la sélection des As d'Or pour le festival des jeux de Cannes. Donc le festival aura lieu fin février.
Ah, février ouais.
Voilà, et donc on a la sélection. La sélection, il y a trois catégories, trois grandes catégories. Le tout public, l'enfant et l'expert. Et justement, alors, tiens, on va commencer par l'expert.
Oui.
Parce que justement, dans l'expert, pour ton petit jeu que tu dis, hein, Star Realms, il est sélectionné en catégorie expert.
Ouais, et ça, je trouve ça dingue, en fait. Donc, Star Realms, c'est donc un jeu, je ne l'ai pas dit tout à l'heure, mais effectivement, de Robert Dougherty et Darwin Castle, illustré par Vito Gesualdi et édité par Yellow.
En VF, ouais.
Alors, moi, je trouve pas. Enfin, je ne trouve pas que ça mérite sa catégorie d'As d'or expert, mais c'est complètement perso. J'ai pas rincé le jeu non plus, mais la mécanique me semble tellement simple et les combos de cartes me semblent aussi tellement simples que ça mérite pas une place d'expert. Mais après, c'est complètement mon avis et je vais sûrement me faire fusiller dans pas longtemps. Mais bon, pourquoi pas. Mais après, c'est un très bon jeu et je suis assez surpris et assez content qu'il soit dans la catégorie. Toi, tu l'avais pas testé.
Je l'ai pas testé, moi. C'est un des jeux que j'ai pas testé de la sélection.
D'accord, bon, on fera tester ça rapidement. Qu'est-ce qu'il y a d'autre dans la catégorie expert?
Eh bien, justement, alors, il y a deux jeux, dont un qu'on connaît, dont on a déjà parlé au sein de l'émission, c'est Conan, hein, donc, de Frédéric Henry, illustré par Georges Clarinco et Adrian Smith, et édité par Monolith, donc un jeu Kickstarter.
Oui.
Et nous avons aussi, donc, le troisième jeu sélectionné, c'est Sit, de Jamie Stegmaier. Donc illustré par Jakub Rosalski et édité par Matago. Et là aussi un jeu qui a d'abord été édité en Kickstarter.
Et comme quoi, hein, ça prend son essor. Hein.
Alors c'est aussi un peu particulier parce que on a une catégorie expert où il n'y a aucun jeu de cube en bois à l'allemande. Donc là, effectivement, la sélection, la catégorie expert a énormément évolué par rapport à 10 ans, aux 10 dernières années, puisque avant, on était habitué à avoir du gros jeu tournait.
Oui, de ressources, voilà, gestion de ressources. Ouais. Satan ?
Ouais, mais moi aussi, pour rejoindre Christophe, je suis choqué par cette sélection. Hein. Pas dans le sens où c'est vendu, j'en sais rien, je m'en fous, moi je suis pas concerné. Mais voilà, Conan, d'où c'est un jeu d'expert, quoi. Je veux dire, ok, c'est pas un jeu grand public, c'est un jeu d'expert. Pourquoi ? Parce qu'il a coûté cher, il a rapporté des millions, il est super célèbre, soit, mais c'est pas un jeu d'expert. Je veux dire, tu prends Abyss, c'est un jeu d'expert parce qu'il a une mécanique.
Alors, Abyss était l'année dernière nommé dans la catégorie expert.
Il y a deux ans.
Non, mais c'est pour ça que je parle d'Abyss. Abyss, je veux dire, même s'il est pas compliqué en soi, je veux dire, c'est un jeu, bah, faut que tu t'impliques, tu regardes quand même un petit peu comment ça marche avant de bien comprendre le mécanisme, etc. Tu vois. Conan, c'est. Enfin, moi, j'ai l'impression que c'est son succès qui fait qu'il est dans les experts, mais pas du tout son côté.
Justement, après, quand on parlera de l'ensemble de la sélection, moi, j'ai peut-être une piste de réflexion. Mais juste, effectivement, alors moi, ça, je ne suis pas choqué. Je fais le constat qu'effectivement, le jury change de braquet. Et effectivement, alors peut-être qu'il colle plus aussi à la nouvelle tendance, parce que le public des joueurs, des gamers, de ce qu'on appelle le gamer, il évolue aussi. Et effectivement, enfin, il évolue, en tout cas, il s'est développé sur d'autres tendances. Et alors, est-ce que c'est les mêmes joueurs ? Je ne suis peut-être pas certain, mais en tout cas, on a des joueurs qui viennent maintenant, qu'on pense être des gamers, et qui s'intéressent plus à ce type de jeu qu'à de purs cubes en bois. Et je pense que c'est pour ça qu'ils sont sélectionnés, ces deux jeux Conan et Sit. Et effectivement, par contre, là, je suis totalement d'accord avec toi, c'est qu'avant, on avait plutôt des jeux qui étaient relativement abordables, même financièrement, hein, des jeux qui tournent autour de 30-40 euros. Là, mine de rien, Conan, c'est quand même 89 euros. Hein, Sit, c'est 72 euros. Et je pense que c'est la version de base, parce que le Kickstarter était sorti entre 59 et 99 dollars. Donc le 59 dollars, c'était juste avec du pion, etc. Enfin, du jeton. 99 dollars, là, vous aviez des belles figurines, etc. D'ailleurs, on va peut-être aussi expliquer ce que c'est Sit. Hein, ça serait bien qu'on le lise. Mais effectivement, on est sur un type de jeu qui change. Déjà, on est sur le jeu à figurines. Il y a de la figurine. Alors, ce n'est pas du jeu de figurines, mais c'est une espèce de mélange entre du plateau avec où on met toujours du plastique dedans.
Alors, c'est un jeu de plateau un peu à l'ancienne, finalement, parce qu'il y a des cases, on a un plateau avec des cases, hein, qui ne sont pas forcément des cases comme on les a connues sur HeroQuest avec des carrés, mais c'est au moins représentatif. Mais effectivement, là où on a remplacé les pions, les pions en carton ou autre, on les remplace par des figurines, et c'est là où le prix commence à être élevé. Juste avant que tu prennes la parole, juste rappelle-nous, Sit, justement, ce que c'est, t'en parler.
Alors, Sit, c'est un mélange entre. Il y a un peu de gestion, il y a du wargame aussi, en tout cas. C'est un jeu qui se passe dans une sorte des années 1900, mais. C'est pas du steampunk, mais c'est pas loin. Il y a du mecha. Donc l'objectif, c'est que on doit essayer de prendre le contrôle d'une partie de la map et de produire sur les unités où on s'est mis pour ensuite augmenter son armée. Et il y a des points, il y a des objectifs à atteindre. Donc il faut atteindre ces objectifs. Sachant que chacun va avoir les différentes forces en présence, ont chacune des typologies particulières, des caractéristiques particulières, certains vont jouer plus économique, d'autres plus militaire.
D'accord, on est clairement en train de me décrire un jeu expert.
Oui, là je suis d'accord, si genre, c'est un jeu expert. Oui,
t'as du wargame, t'as de la gestion, t'as des missions personnelles, ça commence à être un jeu vraiment expert où il faut vraiment la gestion.
Moi, tu vois, par exemple, là tu l'as cité, tu me prends HeroQuest il y a 30 ans. Je veux bien qu'HeroQuest, à l'époque où les gens jouaient Monopoly et au Trivial Pursuit, ce soit un jeu expert à l'époque. Maintenant, c'est un jeu pour enfants, quoi.
Ah, mais clairement.
Tu vois ce que je veux dire ? Conan n'est pas beaucoup mieux qu'HeroQuest. Enfin, il est mieux sur beaucoup de sujets, de choses, etc. Mais je veux dire, ça reste un HeroQuest avancé, quoi.
Oui, bien sûr, c'est exactement
le problème. Donc, c'est pas un jeu d'expert. Et StarRealms, par rapport à certains deck building qu'on a pu tester.
C'est quoi cette réflexion ? C'est exactement la réflexion que je me suis fait au moment où j'ai lu le truc. Je me suis dit, mais c'est dingue, parce qu'aujourd'hui, on va récompenser StarRealms, alors qu'en fait, Legendary ou Uncounter ou ça, ce sont des jeux qui sont quand même plus complexes dans la mécanique, parce qu'ils ajoutent des mécaniques plus complexes que StarRealms, genre, même si ça reste du deck building. Et qui sont plus difficiles à jouer, non seulement parce que le jeu est plus dur, mais aussi parce que les mécaniques de combo sont difficiles à introduire, et surtout c'est du coopératif, donc il faut vraiment jouer ensemble contre le jeu. Alors, c'est mon avis perso, encore une fois, genre comme la dernière fois où j'étais déçu que Abyss n'ait pas gagné. il y a plein de trucs comme ça, je suis complètement d'accord avec toi, c'est que là où on récompense finalement que ce jeu-là, est-ce que. En même temps, StarRealms a été localisé en France.
Oui.
Là où les Legendary, donc les jeux quand même qu'on apprécie plus, ne sont pas du tout localisés.
C'est vrai que c'est la différence, je pense, entre les Asdor et les Spiel. C'est que le Spiel, je ne suis pas certain que le jeu doit être sorti en Allemagne pour être sélectionné. Alors que les Asdor, clairement, les jeux sont commercialisables en France. En tout cas, dans mes souvenirs, c'est ce que j'ai, moi.
Alors, moi, juste pour finir, je précise bien aux gens, on parle là juste par rapport à la sélection. Ça n'a rien à voir avec la qualité des jeux.
D'accord. Ah, bien sûr, oui.
Moi, j'ai testé deux des trois jeux et six, j'ai regardé, etc. Ça a l'air. Enfin, c'est tous des très bons jeux, en fait.
Ah, oui, non, on dénigre pas du tout. Enfin, non. Même si Conan, moi, j'avais une note plutôt négative après le test, mais ça reste trois très bons jeux et là-dessus, genre, ils sont pas du tout foirés au niveau des nominations. Genre, il n'y a pas à chercher plus loin que ça. Est-ce qu'on passerait pas à la catégorie Asdor tout public ?
Alors, tout public, on a quatre jeux, donc, dont on a déjà parlé de deux. Hein, c'était Codenames, de Vladar Jvatil.
Bien joué.
J'adore le dire, celui-là. Donc, édité par Yellow, encore. On a Imagine aussi. Alors là, c'est un jeu qui vient du Japon, de Shintaro Hono et Shingo Fujita. Alors, je ne suis pas certain, je ne sais plus si c'est Japon. En tout cas, c'est Japon. Alors, il y a tout un nom de... Alors, je ne sais pas qui est auteur, qui est illustrateur, etc. Il y a quatre noms d'auteurs. Et édité par Cocktail Games. Donc là, c'est pareil, on en avait parlé. Hein. D'ailleurs, on a eu un petit débat, la différence entre Concept et Imagine. Et finalement, les deux jeux portent très très bien leur nom, puisqu'Imagine, il faut faire preuve d'imagination pour créer quelque chose à faire deviner. Et ça, pour créer un ensemble associé des images, il faut faire preuve de création d'imagination.
Ouais. Imagine, c'était vraiment plus... plus fun entre guillemets que Concept, parce que on s'amuse vraiment sur le côté dessin. Toi, t'avais aimé aussi Satan,
moi, j'ai pas aimé.
T'avais pas aimé Imagine ?
Moi, j'aime beaucoup Concept, mais Imagine, ça m'avait un peu.
Non. Pas pareil plus que ça. Ouais. D'accord.
Imagine, ce qui est important, c'est de savoir et d'utiliser la capacité d'animer son.
Oui, c'est vrai.
Ses illustrations.
En fait, il faut quelques parties pour s'y mettre dedans et comprendre un peu le mécanisme.
Mais j'anime très bien les choses.
Et donc, alors, les deux autres dont on n'avait pas encore parlé, et mais ça tombait bien, hein. Parce qu'en plus, moi, j'avais prévu d'en parler à cette émission-là. Hein. Donc, c'est King Domino. King Domino, un jeu de Bruno Catala. Donc, moi, Bruno Catala, toujours. Je crois qu'il y a...
Il y a pas très... du favoritisme dans
mais
cette
non,
émission.
Mais non, mais voilà, écoute, j'ai à peu près... Enfin, voilà, moi, il y a un jeu de Catala qui sort, excepté un, je crois que j'ai...
Non, bon, on va demander à M. Catala de devenir un des parrains de l'émission, je pense.
Mais bon, là, bon, voilà, c'est jamais neutre. Illustré par Syl Bouquet et édité par Blue Orange. Alors, King Domino, je vais vous raconter. Alors, en plus, le titre, il est vachement bien foutu, parce qu'il faut faire son royaume.
Incroyable.
Un kingdom avec des dominos.
C'est incroyable. Les mecs qui font ça, ils y pensent quand même quand ils font les titres, tu crois ou pas ?
C'est trop fort. Et donc, voilà, on va créer... donc on a, c'est un jeu assez rapide. Hein, on est dans les 15-20 minutes, c'est pareil. 15 minutes entre joueurs sympathiques et ça peut monter à 20 quand on est avec des enfoirés. Donc, ça se joue à 2 à 4 joueurs. Et donc, on a, voilà, on va avoir un petit royaume et autour duquel on va essayer de développer son... enfin, on a un petit château et autour duquel on va essayer de développer son royaume avec des tuiles qui sont des dominos. Mais au lieu d'avoir des chiffres, on va avoir de la plaine, de la forêt, des mines, des marais, etc. Et certaines tuiles vont rapporter des points. En plus, elles ont des couronnes dessus. Et donc, quand vous arrivez à bien matcher vos tuiles et votre royaume, eh ben, vous arrivez à faire un maximum de points. Et en même temps, il faut faire attention à ce que font les autres. Parce que du coup, voilà, le joueur qui joue tout seul dans son coin, il se fait clairement bananer. Et, ou alors, le joueur à qui on fout nos paires royales, il peut faire des scores de ouf. Donc, généralement, on s'engueule en se disant « Mais vas-y, empêche-le, tu ne peux pas lui laisser ça, toi hein !» Ça, c'est une grosse spécialité de Zef, de dire aux autres « Non, mais lui, laisse pas faire, et lui, il s'en fout, il fait
c'est
son truc dans son
fous,
coin. »
C'est que je joue après, donc c'est au joueur d'avant de faire la police, hein, je suis désolé.
Voilà, ben non, justement. Donc, voilà, donc c'est un jeu qui... Voilà, ben, c'est un jeu de Catala, donc qui peut être à la fois simple et échafouin. Rapide et puis pas cher hein, du tout, c'est pareil, on est autour de un peu moins de 20 euros. C'est un chouette petit jeu qui se joue à la fois en famille. Il va très très bien pour le tout public, vraiment. On peut jouer avec les enfants, on peut jouer en famille, on peut jouer entre adultes et on peut jouer entre gamers. C'est vraiment le petit truc fun.
Ah oui, c'est un très bon jeu. Moi, je l'ai présenté à une dizaine de personnes et à chaque fois, ça fait un carton plein. Donc, c'est vraiment très cool. Il était d'ailleurs dans la boîte, le coffre à jouer, pas du mois de janvier, mais du mois de décembre, si j'ai bonne mémoire. Et c'est une bonne surprise pour une fois. J'ai envie de dire, j'étais toujours un peu déçu ces derniers temps de leur envoi. Mais là, pour le coup, King Domino, c'est un très très bon jeu. Toi, t'avais pas testé ça, on te l'a présenté rapidement, mais ça
ouais, t'a. Non, mais ça a l'air bien. Enfin, je veux dire, si un soir, je sais pas, on s'ennuie, on sait pas quoi faire, il nous reste 20 minutes ou.
Ah, clairement.
Quoi, ouais. Voilà, c'est le genre de truc, il y a aucun problème. Quoi.
Mais c'est vraiment tout public en plus, c'est vraiment très intéressant.
Ça et là, quoi, ce genre Satan, c'est pour tout public, tu peux y jouer
Non, mais non, mais pour, c'est une fois, c'est un jeu où peut-être tu.
Non, puis il y a une petite mécanique qu'on peut pas vraiment développer, mais pour prendre ses cartes, etc., il y a un petit côté, voilà, il faut faire des choix. C'est plus tu prends une carte haute, moins tu vas pouvoir faire de choix la fois suivante.
Oui, ça, en fait, la mécanique est super simple, mais très intense en fait. Et finalement, elle est encore une fois, elle est maligne. Bon, c'est du Catala, on va pas se priver. Hein. Ok, et dernière sélection.
Et enfin, donc on a Unlock. Donc alors là, c'est pareil, ça va faire un peu. Je pense que ça va faire bruiser dans l'anderno ludique, parce que le jeu, alors. N'est pas encore sorti au moment où il va sortir le week-end où on en parle, puisque le jeu ne sort que début février. Et donc, à fin janvier, il est déjà sélectionné. Alors, sachant que la seule fois où c'est arrivé, alors même je crois qu'ils ont donné le prix, ils lui ont donné le prix avant même qu'il soit sorti, d'ailleurs, c'était en 2011, c'était Skull.
Alors en fait, c'est un peu gros parce que c'est pas censé récompenser les jeux qui sont sortis en 2016.
Non, non, alors non, ben non, 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 c'est les jeux sortis entre les deux festivals, je crois.
Ouais, c'est un peu gros.
Voilà. Toujours est-il qu'effectivement, on sait que ça va faire un certain bruit. Bon, ben voilà. Alors après, moi, je pense que il y a de bonnes raisons aussi de justifier l'explication, mais pour voilà, on en discutera tout à l'heure un petit peu sur quand on verra la globalité de la sélection. Mais donc Unlock, j'en parle déjà. Hein, donc c'est un jeu édité par les Space Cowboys. Alors je crois que le concept a été imaginé par Cyril Demeg, Thomas Coet et Alice Carroll. Et illustré par. Alors, il y a trois illustrateurs, enfin, et même quatre illustrateurs. Et c'est aussi édité par Yellow. Non, pardon, c'est pas édité par Yellow du tout, c'est.
Space Cowboy, pardon.
Et donc, on est sur un concept, puisqu'il s'agit d'un jeu d'escape avec des cartes.
Un escape game avec des cartes.
Voilà, ouais. Escape game avec des cartes. Et là, c'est un peu particulier. Alors, va expliquer le concept. Bon, le concept, c'est qu'on va avoir des cartes. On a une énigme au départ, enfin, on n'aime pas, même pas, une présentation, un petit texte au départ. Alors, nous, on a fait que la version démo. Hein. Vous allez devoir, effectivement, vous avez 60 minutes pour résoudre une situation. Donc, les trois scénarios qui vont être dans la boîte de base, on ne les connaît pas. Nous, on connaît que la version démonstration et il y a un petit tutoriel aussi qui existe. C'est ça, c'est qu'il faut matcher des cartes entre elles, chercher des chiffres. Il y a une appli gratuite.
Heureusement.
Voilà, bien sûr. Il y a une appli qui, justement, fait tout ce qui est décompte, vous donne si vous avez la bonne réponse ou pas, vous amène à la piste suivante, etc. Voilà, c'est tout un ensemble assez malin, alors loin d'être facile, hein, il faut bien le dire. Et c'est vraiment c'est une sorte de d'Olni, hein, objet ludique non identifié. C'est une nouveauté, c'est un concept. C'est très particulier. Et donc ça va coûter 30 euros, ça sort fin février, il y aura d'autres scénarios qui vont sortir courant 2017, mais voilà, c'est le jeu, justement, je pense que c'est assez compliqué d'en parler, surtout si on n'a pas fait les trois jeux de base, donc les trois jeux qui vont être dedans sont scénarisés par des auteurs assez costauds, et c'est la grande surprise du moment.
Moi, les grandes surprises, ça t'en pensais quoi ?
Alors, moi, je pense que, en fait, c'est juste qu'ils se sont aperçus que les escape rooms marchaient énormément en ce moment et qu'il y en a un qui s'est dit, bon, on va en profiter pour faire le jeu de cartes. Voilà, et qu'il n'y a pas d'idée originale dedans, c'est juste une adaptation d'un concept qui existe ailleurs. Et le peu que j'ai testé, je suis désolé, mais c'est ce que j'avais peur, en fait, c'est que c'est injouable pour la majorité des joueurs. Voilà, ça va être chiant, ça va être trop dur. Si t'as pas suivi l'idée du mec qui a écrit l'intrigue, ou si t'as pas des bons yeux pour voir le petit détail ridicule dans un coin, tu vas louper le truc, tu vas pas comprendre, ou alors ça va demander trop d'efforts à certaines personnes. À mon avis, c'est un peu élitiste, et c'est un peu pour frimer, genre j'ai fait une escape game à la place d'une escape room. Quoi.
Alors, ouais, je comprends ton avis là-dessus, parce que moi encore une fois, c'est un jeu qu'on avait testé en Belgique en fin d'année dernière. Le monsieur qui nous l'avait présenté nous avait dit que l'auteur s'était réveillé en pleine nuit en disant « Ah mais tiens, si je fais 2 plus 3, je sais que ça fait 5, donc je peux m'amener prendre une carte qui fait 2, une carte qui fait 3, et ainsi de suite. » Donc il a créé en fait le truc en se réveillant, en ayant fait un rêve. J'exagère un petit peu, mais grosso modo, c'est comme ça qu'il lui avait expliqué. Et voilà, comme tu l'as dit, l'idée, c'est de prendre une carte sur laquelle il y a un numéro 30, une carte sur laquelle il y a un numéro 22, et quand on les additionne ensemble, parce qu'elles vont ensemble d'une certaine façon, ça fait 52. Donc du coup, on va aller chercher la carte 52 qui va nous mener à celui de l'intrigue. Alors, quand j'en parle comme ça, et sur le papier, ça a l'air super simple, mais effectivement, quand on est devant les cartes, bordel, c'est la mécanique, parfois, elle est dure à comprendre, quoi.
Oui, parce que c'est pas que additionner des chiffres, il faut aussi savoir quoi additionner, et puis il y a des indices qui vont être, en tout cas, on peut essayer la version démo, hein. La version démo, elle est en print and play,
oui.
Donc elle est disponible sur internet, vous pouvez la télécharger, l'imprimer, regarder avec l'appli. Alors juste pour information, tant que le jeu n'est pas sorti, l'appli n'est disponible que sur Google Play, et la version Mac sortira au moment de la sortie du jeu. Et c'est vrai que si vous faites le test avec le print and play, vous allez avoir parfois des trucs sonores. Alors, celui-là, j'en peux plus. Le code, il est abominable à faire. Alors, on l'a peut-être pas fait. Enfin, Satan l'a peut-être pas fait dans les meilleures conditions. Parce que déjà, tu l'as fait tout seul. Nous, on était. Toi, vous étiez.
Nous, on était. Alors, là aussi, moi, j'ai un petit coup de gueule à passer sur ce genre de truc, parce qu'effectivement, on l'a fait, on était trois. On était avec Etrus et Riamello. Et le problème, c'est qu'on était. Alors, c'est difficile à dire à l'antenne, mais on était disposés sur la table, c'est-à-dire deux d'un côté et un de l'autre. Et le problème, c'est qu'on regarde des cartes. On regarde des cartes qui font 3 cm sur peut-être 8. Et du coup, quand t'en prends une, tu la montres à ton voisin, mais celui qui est en face, il peut pas la regarder. Et comme tout se passe sur les cartes, j'ai peur qu'en fait, un jeu qui se joue à 3 ou 4 et que les gens soient autour de la table, on se passe les cartes au fur et à mesure, on voit pas ce que l'autre est en train de regarder, mais on participe moins. Ou...
Alors, tu sais, c'est aussi un petit peu comme une vraie escape room, parce qu'à un niveau d'escape room, on n'est pas tous en train de regarder le même indice. C'est qu'à un moment, on réfléchit,
oui, mais
tu cherches.
Il y a plein de choses en même temps à faire.
J'ai trouvé vraiment la même sensation. Hein. C'est vrai qu'à chercher, à ne pas comprendre, à vouloir. Enfin, tu sais, la tension que tu as dans une escape room, c'est vrai que j'ai retrouvé vraiment ça sur la
table. Et on dit, bah, cherche-toi, mais je ne trouve pas, vas-y. Voilà,
sauf qu'au bout de 10 minutes, ça m'a saoulé, quoi, si tu veux.
Voilà. Ouais, c'est pour ça, seul, c'est peut-être un peu délicat.
Et j'ai des bons yeux, mais quand tu prends. Enfin, je ne veux pas spoiler, mais quand il y a une carte, si tu veux, les gens qui voient pas bien les couleurs, ou qui bah il y en a qui mettent pas leurs lunettes parce qu'ils sont coquets ou des trucs comme ça, c'est mort pour eux, quoi.
C'est vrai,
ils
n'y arriveront pas. Là-dessus, effectivement, c'est pas un jeu fait pour les daltoniens, ça c'est une évidence.
Oui, bon, ça, c'est un peu,
oui, mais étant mine de rien, c'est assez étonnant parce que beaucoup de jeux maintenant, les auteurs, les éditeurs réfléchissent à ce type de choses. Et là, manifestement, effectivement, c'est pas le cas.
C'est vrai que pour les petits indices sur les cartes, les petits détails sur les cartes, faut les voir. Mais effectivement. Alors, pour répondre à l'argument, je vais me faire un peu l'avocat du diable, mais l'argument du effectivement, dans une escape room, tout le monde ne regarde pas tous les mêmes indices au même moment. Alors oui, je suis complètement d'accord là-dessus. Le problème, c'est que, bon, encore une fois, on n'a pas testé le scénario de base, mais dans une escape room, quand tu regardes pas l'indice qu'il y a au fond à droite de la pièce, tu es à gauche en train de faire autre chose. C'est-à-dire, tu t'ennuies pas, en fait. Là, si tu es bloqué sur un seul indice, parce que c'est cette carte-là plus une autre que tu dois faire pour trouver le reste... On peut pas être 12 à la regarder en même temps. On est 2, 3 maximum, et 3, c'est déjà difficile, je pense. C'est ça qui me gêne. Donc, sauf s'il y a beaucoup de cartes à regarder en même temps et à manipuler au même moment pour 4 personnes, par exemple, là, je suis d'accord pour dire, OK, tout le monde pourra faire quelque chose, à mon avis. Mais encore une fois, on n'a pas fait le scénario de base. Je pense pas qu'il y ait au moins 6 ou 7 cartes qui vont circuler en permanence autour de la table qui font que tout le monde va pouvoir y accéder. En
mais
fait.
Même si tu as autant de cartes, après, les gens vont plus faire les liens entre les unes et les autres, tu vois.
C'est ça.
Donc, je pense qu'il y a. Moi, je dirais, il faut vraiment tester la version gratuite, voilà, pour savoir si le jeu vous plaît, parce que...
C'est vraiment délicat. Après, au niveau du tarif, je suis un peu surpris, ça, tu m'as dit 30
c'est ce que j'ai
balles,
lu, ouais. C'est ce que j'ai lu, et effectivement, alors moi, je trouve qu'au niveau du prix, c'est un petit peu élevé pour 3 scénarios.
Ouais, parce qu'en Belgique, le présentateur, la personne qui faisait la présentation nous avait dit que ça tournerait autour de 20 euros. 20 euros pour 3 scénarios d'une heure, je trouvais ça très correct.
J'ai pas encore vu la. Alors, les fiches qu'on trouve, etc., ne mettent pas le prix encore. Et effectivement, ce prix de 30 euros, moi, je l'ai vu aux alentours de 30 euros. J'ai vu ça sur un blog de quelqu'un qui a testé.
On spécule beaucoup sur le jeu. Voilà.
Bon, on verra bien par rapport à... De toute façon, il sort dans...
Oui, on va le tester très rapidement. Moi, j'avais beaucoup apprécié. Voilà, j'ai juste quelques réserves et j'attends vraiment les premiers scénarios pour me faire une idée. Ouais. Mais encore une fois, si c'est 30 euros pour 3 scénarios, 3 heures, ça fait quand même cher de l'heure.
Ouais, pas c'est dire, mais, étonnant. Je trouve aussi...
C'est un peu dur. C'est pas grave, t'inquiète pas, on est malade, on le sait tous. ok, on fait un petit...
La partie enfant.
Voilà, je veux dire, voilà. Un petit récap pour savoir si enfant, s'il
donc,
te plaît.
Donc la partie enfant. Alors la partie enfant, malheureusement, moi, je ne les connais pas. Il y en a un, je connais la version adulte, mais voilà. Bah, donc il y a Animove, donc, de Martin Nerdegaard Andersen, illustré par Philippe Giraudano, édité par Djeko. Il y a Kikou le coucou. Un jeu de Josep Maria Alway et Victor Batista Iroca, illustré par Gabriela Silvera, édité par ABBA, donc ABBA, l'éditeur bien connu et qui fait souvent de très très bons jeux pour enfants. Et l'âge de Pierre Junior, donc là, c'est pas une surprise de le voir dans la sélection, c'est une surprise, que Asmodée eut... Philosophia, pardon, donc c'est distribué par Asmodée. Philosophia a eu l'idée de faire le jeu pour enfants. Donc c'est un jeu de Marco Teubner et illustré par Michael Menzel. L'âge de pierre, c'est un vrai c'est un vrai jeu de cube en bois. Il est excellent et c'est vrai que c'est drôle de voir cette version pour les enfants où c'est un jeu, donc on joue à l'époque de l'âge de pierre, hein, comme son nom l'indique, où c'est un jeu de gestion et d'optimisation, et là il y a une version enfant qui est sortie et qui est assez...
C'est pas étonnant qu'ils fassent une version enfant. Ils avaient fait une version enfant pour Carcassonne, ouais. Qui était aussi peut-être un peu plus légère.
Il est plus costaud, l'âge de pierre. Voilà.
D'accord, donc effectivement, ça, on ne va pas en parler beaucoup parce qu'on ne les a pas testés. Je suis toujours curieux de tester les sélections enfants, en fait, parce que c'est souvent des jeux assez agréables.
Des belles surprises.
Ok, on fait un petit récap de tout ça et de... Je couperai ça au montage, j'allais le dire, t'inquiète pas. Ok, on va faire un petit récap de chaque catégorie en donnant chacun notre petit pronostic pour... pour le Fige. Et puis on verra bien, on se parie un petit truc là-dessus ou... Non, ouais, je vais pas le faire.
Je m'en rappelle pas, je suis pas assez connaisseur. Conan, et...
Je pense que t'auras tes choix aussi là-dedans, hein, au final. Allez, Asdor, tout public, on rappelle, il y a Codename, Imagine, King Domino et Unlock. Allez, petits pronostics rapidement.
Ben justement, moi je dirais que ça dépend totalement de l'esprit du jury. Soit effectivement, quand on voit la sélection, on voit qu'il y a quand même deux jeux qui sont, enfin plusieurs jeux, qui sont assez originaux dans leur mécanique. Donc Unlock, ça pourrait être ça si le jury veut essayer de travailler sur l'innovation. Sinon, je pense, moi personnellement, si on est plus sur le succès public et aussi l'engouement public, les jeux qui ont fait le buzz, etc., on va plutôt être sur du Codename. Les deux sont... voilà, Codename, pour moi, j'adore Codename. Mais effectivement, c'est ça qui est drôle, c'est que d'un côté, on voit une sélection très différente. Et donc voilà, c'est assez compliqué de savoir l'état d'esprit du jury.
Moi, je pense que Codename a énormément de chances de gagner, mais je pense que c'est pas possible qu'il gagne. Enfin, à mon avis, il est sorti il y a trop longtemps. Le côté buzz est déjà un petit peu retombé. Et là, il y a une nouvelle version qui est sortie avec des images, ouais, si je dis pas de bêtises. Ça. Donc j'aimerais beaucoup que Codename soit gagnant là-dessus, mais j'ai un petit doute quand même qu'il puisse.
Je suis pas certain que le jury cherche le coup du buzz. Donc, mais moi je pense que c'est vraiment l'état
d'esprit. Pour se permettre de mettre Unlock alors qu'il est pas encore sorti dedans et profiter justement du buzz du truc.
C'est, à non, mon avis, c'est pour l'instant, je suis pas certain qu'Unlock fasse le buzz. Hein. J'en suis pas certain. Mais par contre, là, moi, je le vois vraiment pour vouloir primer une mécanique. Enfin, une nouveauté, vraiment une création comme ils ont fait pour Skull à l'époque. C'est-à-dire qu'ils ont, voilà, ils se disent il y a quelque chose. Et cette idée-là, justement, m'amène à la version expert, où justement, on est aussi à la fois une vraie différence entre Conan et Sith. Et du coup, la question est de savoir est-ce qu'ils vont plus primer. Alors, ça peut être aussi Star Realms. Hein,
tu crois pas, toi. Tu l'as même pas nommé, tu crois pas.
J'y crois. Alors, justement. S'ils veulent se démarquer. Mais c'est drôle de mettre deux jeux qui sont pas proches l'un de l'autre, mais qui ont quand même...
C'est loin d'être proche. Hein. C'est tout ce qu'ils ont proche, c'est de la figurine. Hein.
Voilà,
c'est
la figurine, et puis Kickstarter, etc. Et le buzz qu'il y a eu autour avec un jeu de deck. Et ça, c'est assez marrant à voir.
Bah, j'y repense. Marrant. C'est peut-être ce qu'ils ont cherché à faire, hein, entre le vrai jeu expert qui est Sith et un jeu de figurine. Enfin, tu vois, un peu particulier, et le jeu de cartes, ça fait vraiment trois types de jeux.
Oui, s'il faut, ils ont voulu diversifier le truc, effectivement.
Ils ont peut-être voulu proposer vraiment dans trois types de jeux différents. Et,
Je sais pas, moi, toi, tu mets ta pièce sur quoi?
Pour le jeu expert. Pour le jeu expert, bah justement. Alors, s'ils essayent de récompenser, on va dire, la mécanique, je dirais plutôt Conan.
Non, mais toi.
Mais justement, c'est moi, mon goût personnel. J'aurais mis d'autres jeux, personnellement, mais voilà.
Le gars, il peut pas répondre à une question. Je lui dis, dans ces trois jeux, lesquels tu vois, toi, primer, et tu,
moi,
tu dis, je mettrai
si je
chose.
Vois primer, ça signifie que je me mets à la place du jury. Et le problème, c'est que je vois pas, justement, pour moi, le jury, soit il va essayer de faire dans l'imagination de la mécanique, et là, je le mettrai au niveau de Conan, parce que la mécanique, je trouve, est quand même pas mal foutue à ce niveau-là. Soit, justement, on est sur l'engouement, la vague, le truc que le public a adoré, enfin, dont il parlait énormément depuis que le jeu est sorti, c'est Sith. C'est évident, enfin, là-dessus. Et tu vois, à différence, par exemple, Conan, c'est vrai que quand il est sorti, il y a eu pas mal de débats là-dessus. Parce qu'il y a eu, on peut le dire, il y a eu des loupés éditoriaux.
Ouais, c'est du détail, finalement, par rapport au jeu. Ça casse un petit peu le buzz, mais c'est pas non
c'est,
plus...
C'est pas que du détail. Il y a quand même beaucoup de discussions par rapport aux différents scénarios, tu vois. Alors que Sith, voilà, c'est un jeu où, de toute façon, il n'y a pas de scénario à la base, donc c'est beaucoup plus facile à vendre, hein, évidemment. Mais voilà, le Sith, il a un vrai engouement populaire, même après la sortie, et il n'a pas fait de déçu.
D'accord. Moi, je pense que Conan va remporter la mise. Parce que énormément de buzz dessus, et parce que, comme tu l'as dit, il y a un côté vachement nouveauté, vachement nouvelle mécanique, entre guillemets, même si elle n'est pas non plus fofolle. Encore une fois, je casse un peu le jeu, je ne l'ai pas vraiment apprécié, mais je pense qu'il va remporter quand même la mise. Ce sera une belle victoire, mais parce qu'en face, il n'y a pas vraiment d'équivalent en termes de nouvelles mécaniques. Si on vraiment on se base sur ça, hein, comme tu vois, Sid, c'est du déjà vu. Le deck building, Star Realms, ok, c'est pas, enfin, même si c'est un très bon jeu, ça reste la mécanique connue. Je pense qu'effectivement, Conan a toutes ses chances là-dessus.
Mais je pense que celui qui a fait le plus buzz maintenant, c'est Sith. Hein. Après la sortie du jeu, clairement, Sid, ouais, c'est celui dont on a vu partout sur Internet, etc.
C'est, ouais, je pense que Conan en a beaucoup parlé, c'est passé à la télé, il y a eu plein de choses sur BFM, tout ça, donc il y a eu énormément de...
Normalement, c'est la catégorie expert, donc c'est le buzz chez les experts, donc Sid, voilà, quoi, tu vois.
Ouais, ouais, c'est possible.
Voilà, oui, effectivement, je pense aussi que ça va être Conan qui va remporter, même si je pense que Sid le mérite plus.
Ok.
Enfin, pas dans...
Tu vois que t'avais un avis, finalement.
Pas au niveau, comment dire, qualitatif, hein, je parle, ouais, au niveau, voilà, par rapport au buzz, tout ça, je pense que c'est Conan qui va gagner.
Par rapport au retour du public expert,
ouais,
dans ce type de jeu, dans cette catégorie.
Ok, ben merci beaucoup pour cette longue mais intéressante présentation. On aura les résultats dans un mois, hein, maintenant. On pourra
en direct,
on en parlera, on espère, avec les gagnants directement.
On essaiera même de mettre les résultats en direct sur Twitter, oui, sur le compte Twitter de la
Ligue.
On
y sera de toute façon par le jeudi pour y être tout le week-end jusqu'au dimanche.
Donc suivez le compte Twitter de la Ligue.
De la Ligue, @LaLigue. Les résultats en direct donc du Fige. On va s'arrêter ici pour le plateau et on va faire une petite transition pub et on va passer ensuite à l'évasion rôlistique.
Philippe, je sais où tu te caches.
Oh là là, qu'est-ce qu'il est bien fait ce film. Je me demande bien comment ils peuvent faire ça.
Eh dis donc, Giboite, si tu veux tout savoir, écoute, y'a plus de péloche. Y'a tout sur Cinoche et le monde de l'audiovisuel, avec des super chroniques, des super discussions et des super invités, Giboite.
Oh là là, Emmaël, où est-ce qu'on peut entendre ça?
Une fois par mois sur Radio Kawa, Giboite.
Allez Marcel, au studio.
Il n'y a plus de péloche, le podcast sur le monde de l'audiovisuel.
Présenté par Maël et Giboite.
Une fois par mois.
Sur Radio Kawa.
De retour dans la Ligue des joueurs ordinaires, après cette page de pub, nous sommes encore en train de tous malades, d'ailleurs en train de moitié mourir autour de la table.
Mais non.
Et Satan va reprendre la parole avec l'évasion rôlistique et on va tout de suite l'introduire avec une petite musique qui va démarrer maintenant. De quoi tu veux vous parler?
De Cops, qui est pas un jeu tout nouveau, mais qui est un jeu très très bon. Et c'est à la demande spéciale de Zef qui m'a demandé d'en parler parce que lui aussi apprécie, non? Non, t'as pas.
Ah, oh, si, moi j'aime beaucoup Cops. Ouais, ouais. Oui, j'ai passé très bon moment.
C'est pareil, c'est un jeu que j'apprécie beaucoup malgré mes quelques réserves que j'ai pu avoir, y compris au début, etc. Donc qu'est-ce que Cops? Cops qui veut dire gobelon?
Policier, flic. Voilà,
au pluriel. Donc alors, pour resituer un petit peu, ok? Il faut savoir que pour les plus jeunes d'entre vous, vous ne savez pas que dans les années 80, nous avons été inondés par les films américains qui parlaient de New York, cité du crime. Voilà, donc il y avait des gangs partout, on ne pouvait pas sortir dans Central Park sans se faire violer 4 fois et dépouiller, etc. Donc et après, il y a eu des films, Le Justicier de New York, The Warriors, pour ceux qui n'ont pas vu, c'est un très bon film. Enfin voilà, bref, il y a eu les années 80, New York, cité du crime. Dans les années 90, ça a un peu changé d'ambiance, puisque c'était Los Angeles, cité du crime. Ces gangs, les mecs qui se tiraient dessus dans la rue, enfin bon, c'était vraiment devenu la zone, jusqu'à ce que dans Predators, en fait, on ait des rastas qui coupaient des gens, etc. Enfin voilà. Et tout ça, ça crée une ambiance de Los Angeles. Et dans Cops, en fait, on a, les auteurs ont voulu garder cet esprit-là, des années 90, on va dire. Et donc, on se retrouve à Los Angeles en 2030, où la Californie est devenue indépendante. Voilà, pour différentes raisons, etc. Les Américains se sont dit, la Californie, ça a toujours été des gens... Oui,
c'est hyper d'actualité.
Ah, mais ça, c'était déjà d'actualité. Hein. Je ne sais pas si vous... Enfin, ceux qui connaissent un petit peu vraiment, ça a toujours été un petit peu d'actualité. Hein. Donc voilà, la Californie a fait sécession. L'Amérique s'est toujours dit, c'est des gens à part. Hein. Après tout, chez eux, ils ne sont pas comme nous. Ils vivent sur la côte, c'est des hippies, machin, qui dégagent. La Californie a dit, oui, nous, on veut être indépendants, etc. Du coup, il y a tout ce qui est... tout ce qui est les agences fédérales, en fait, c'est-à-dire le FBI, mais aussi les prisons, l'administration, etc., elle a enlevé toutes ses billes, hein, c'est-à-dire qu'elle est repartie en Amérique, aux USA. Donc l'État de Californie s'est retrouvé, en fait, avec tous ses voyous, ses gangsters, libérés. Hein, il n'y a plus personne pour garder les prisons, vous n'avez personne pour mettre en place. On les libère. Les dossiers, pouf, c'est à nous. Voilà. Donc il y a toute la criminalité qui a été relâchée. Il y a en plus les problèmes d'immigration, etc., qui ont toujours été importants dans cette zone-là, avec le Mexique proche, etc. Il y a eu des problèmes, c'est la Californie, hein. On sait que même quand un gouverneur célèbre est là, il y a des pannes de courant qui mettent la moitié de la côte ouest dans l'obscurité, enfin voilà. Donc tout ça, en fait, ils se sont retrouvés avec une Californie hippie débordée de voyous, de gangsters, de gangs, et donc les forces, l'autorité, le gouverneur, la police, l'Amérique, etc., ont mis en place les cops, les super flics du futur. Qu'est-ce que c'est ? C'est une unité d'élite. C'est entre la BAC de chez nous et le SWAT de chez eux, en fait. C'est-à-dire que c'est des flics un peu mieux que le bleu de base. Alors, au début, ils ont eu plein de matos, ils avaient des super uniformes, ils avaient des masques blancs, en fait, assez typiques, qui montraient bien qu'en fait, ils cachaient leur identité parce qu'ils intervenaient sur tous les fronts, etc. Donc, c'est ça, les cops, en fait. C'était des super flics qui, très vite, se sont fait attraper par l'administration, le fait qu'ils coûtent cher, machin, etc. Et que, bah maintenant, c'est fini, le matos, ça tout va. Hein, vous récupérez les bagnoles de vos copains, et puis, votre coéquipier est mort, vous piquez son casque, parce qu'on n'en a plus à vous fournir. Voilà. Et donc, on joue ces cops-là dans un futur assez glauque quand même. Hein, faut bien reconnaître. Il y a des quartiers de Los Angeles qui sont totalement mis à l'abandon, en fait. Il y en a même un, c'est Skid Row, qui est en plein centre de Los Angeles, où donc les autorités ont rasé les bâtiments autour du quartier pour bien faire comprendre aux touristes qu'il ne faut pas venir là. Il ne faut pas. Il ne faut pas venir. Sinon, on ne vous reverra jamais. Quoi. Voilà. Il n'y a que des gangs, des putes, de la coke, du crack, etc. Voilà. Donc c'est ça, Cops. C'est cette super équipe. Donc en fait, on rejoint un commissariat, une équipe, on choisit son personnage avec ses différents attributs et ses compétences, et on va enquêter dans la rue. Voilà.
Ça donne envie, ça pose un beau décor.
Ouais, bah alors ça, c'était le beau décor. Parce qu'après, il y a les soucis qui se pointent. Bon, alors déjà, le jeu en lui-même, il est sorti en 2003, réédité en 2010. Voilà, les auteurs, c'est Croc. Pour ceux qui connaissent, c'était donc le dealer officiel de jeux de rôle en France pendant très longtemps. Qui est maintenant devenu dealer officiel de jeux de plateau. Il est créateur de jeux de plateau et homme d'affaires, hein, on peut dire comme ça. Après, il y a monsieur Geoff et Benoît, et une ribambelle d'autres participants qui ont créé toute une gamme, etc., parce qu'il y a eu pas mal de suppléants, tout ça. Le jeu a eu un succès d'estime, on va dire un succès commercial par rapport à l'époque où il est sorti.
Ouais, c'est surtout ça, en fait.
Voilà. Il n'y a plus beaucoup de jeux de rôle qui marchaient, c'était parce qu'il y a eu une grande époque où le jeu de rôle s'est un peu cassé la gueule. Cops a un peu pas relancé le truc, mais il s'en est bien sorti par rapport à cette période-là. Donc Cops, au départ, il y a un gros livre de règles assez sympathique, avec des bonnes illustrations, des règles bien expliquées, des illustrations pour bien nous mettre dans l'ambiance. Ils expliquent bien le setting du jeu, etc. Et il faut au moins l'écran, il faut quelques suppléments pour vraiment bien se retrouver, etc. Mais le livre de base permet d'y jouer tranquille.
Alors, c'est quand même un jeu où il faut bien connaître l'univers, hein, pour le faire jouer et maîtriser, je pense.
Alors, pour le maîtriser, je pense que tu as vraiment tout ce qu'il faut dans le livre. Ça va, tu peux t'en sortir, y a, tout est bien décrit. Hein. Enfin, moi, je l'ai pas masterisé, j'ai juste lu, je me suis bien renseigné. Non, il y a vraiment tout pour dedans. Après, c'est les jeux à imagination collective, je dirais. Tu sais, c'est les jeux où, en fait, t'as pas besoin d'expliquer vraiment ce que c'est qu'un gang de Los Angeles. Quoi. Tu fais appel à ce que les gens savent en face, tu vois. Donc voilà, les gens se représentent bien. Tu dis que tu vends le quartier latino, tu sais qu'il y a les mecs qui vendent des nachos dans un coin, ça se trouve, ils connaissent le dealer qui est son cousin. Voilà, enfin, c'est des gros préjugés, mais souvent c'est comme ça dans les films et c'est comme ça dans le jeu, quoi. Et le jeu a été proposé aussi comme une série télé, hein. C'est très proche des séries télé, de, oui. Voilà, où t'as différents épisodes qui suivent avec des PNJ que tu rencontres. Voilà, c'est régulièrement tout ça, quoi, parce que c'est un peu évident. Voilà.
Ensuite, au niveau du système de règles, comment
le système, oui, pardon, excuse-moi.
Non, je t'en prie.
Voilà. Alors, les règles. Donc, les règles, c'est là où ça commence à chier un petit peu. Alors, non, dans l'ensemble, elles sont bonnes. Hein. Les idées sont bonnes, l'ambiance est vraiment bien rendue, le jeu est vraiment, vraiment bien, on va dire. Les règles. Donc, on choisit, en fait, où on répartit ces points de caractéristiques. Donc, il y a carrure, charisme, réflexe, etc. Et après, on a donc des compétences de base, celles que tous les cops ont. Bon, alors là, c'est là où bas blesse, c'est que donc on nous dit qu'on est une super équipe, super entraînée, qui sortons de stage, qu'on a, voilà, et on a quand même l'impression d'être une super merde.
Ouais,
si on n'est pas spécialisé dans une compétence, on a de fortes chances de rater une vache dans un couloir avec un AK-47 ou de ne pas savoir conduire dans le centre-ville de Los Angeles. Quoi.
Ouais, voilà,
c'est un problème.
Bon problème.
Alors après, quand on se spécialise tout de suite, on dit voilà, moi je sais que j'ai un perso qui fait des plaquages, je ne sors plus mon flingue. Hein. Je plaque les mecs en face, les mecs sont pliés en deux, ils ne peuvent plus respirer, ou alors tu peux faire le super contre-pilote, etc. Là, plus personne ne te résiste. Mais si tu n'as pas mis de points en interrogatoire, par exemple, ce qui est quand même une étape assez importante dans le métier de policier, tu vois, tu peux leur faire des plaquages ou les poursuivre en bagnole, mais tu ne sais pas les faire parler. Et là, pour une enquête, c'est un peu compliqué. C'est un des soucis du jeu. Mais bon, à part ça, on retrouve bien son cops. Les fiches de perso sont bien, puisqu'on a son petit masque. En fait, alors normalement, dans la légende des cops, les masques sont blancs. C'est pour cacher l'identité des cops. Et il s'avère que les cops se sont mis à faire des représentations, des dessins sur leur, tu vois, leur masque, ah, un peu comme à la lucha libre, en fait, pour montrer un peu leur personnalité et tout ça. Donc déjà, tu peux dessiner ton casque. Il y a tout qui est tout le matos de ton cops, enfin l'uniforme réglementaire, on va dire, est bien marqué. T'as même certaines feuilles de perso, t'as le texte et tout ce que vous direz sera retenu contre vous, un avocat, voilà. Enfin bref, la feuille est vraiment bien faite. Dans les règles, il y a aussi ce côté. Alors les règles de combat sont sympas parce qu'il y a des petites cartes. Donc ceux qui peuvent les trouver pas trop cher sur le net, c'est vraiment utile. Enfin utile. C'est vraiment sympa de les avoir.
Petit plus.
Voilà, c'est le petit plus parce que ça nous permet de faire des comment ils appellent ça.
Non, pas de problème, je le fais.
Les cartes d'activation, pardon. Voilà, alors les cartes d'activation, c'est-à-dire qu'en fait, au début d'un combat, on va décider si notre personnage va être hyper violent, hyper rapide ou prudent. Donc tu dis, bah, en fait, t'as ta petite carte qui dit, bah non, en fait, je suis caché derrière un élément. Donc en fait, l'adversaire va avoir un malus pour tirer dessus. Et après, tu vas choisir si tu vas tirer en premier ou alors si vraiment tu vas être très prudent et en plus attendre que le mec se mette dans ta ligne de vire ou vraiment tu te planques en tirant, enfin, tu vois, au hasard. C'est bien. C'est mal foutu. Parce qu'en fait, il y a. Alors, t'es content, t'as tes cartes, tu dis, oh, je suis super rapide, super agressif et tout, moi je vais tous les niquer. Et puis là, on dit, mais non, mais en fait, regarde, c'est marqué que si t'as moins de 3 réflexes, tu peux pas le faire, tu vois.
Ouais, tu reprends ta carte, voilà.
Tu sais, t'as un petit texte qui dit, alors t'as plus 2 sur ton G, mais l'adversaire a moins 2, en fait. Alors t'as du mal à savoir si c'est ton G d'attaque, sa défense, tu vois. Ça, c'est un peu dommage. Mais l'idée est vraiment, vraiment là, quoi. Elle est vraiment intéressante, parce que pour une fois. Dans la représentation des scènes d'action dans un jeu de rôle, ce qui est souvent assez difficile quand t'as pas de figurine, t'as vraiment, tu sais où ton personnage et comment il est, quoi. Tu sais s'il est vraiment
au milieu de la rue. Il y a une mécanique en plus qui est plus intéressante, mais qui est un peu difficile à la lecture, effectivement.
C'est tout. Voilà. Mais après, je pense que voilà, quand vraiment les joueurs font des longues campagnes, etc., ils peuvent s'en sortir, etc. Mais moi, ça me gêne un petit peu. Tu vois, je joue pas super régulièrement à COPS. Enfin, je veux dire, pas toutes les semaines, etc. C'est un peu chiant, c'est un peu dur. Quand t'as un nouveau joueur qui se pointe, tu vois, faut lui expliquer. Non, mais en fait, tu peux pas faire ça, tout ça. Mais bon, l'idée était super bien. Voilà, et donc voilà, bah, vous partez en mission dans les rues de Los Angeles. Vous recevez des appels radio, des 900, enfin 900, c'est quand on appelle la police, mais tu vois, il y a les codes, alors je les connais pas.
Des 11-12-18, je crois que c'est.
Voilà, 12-18, tu vois, etc. Donc, alors, t'as deux possibilités. Hein. T'as les enquêtes, les vraies enquêtes, que ton équipe va prendre... d'office, où son capitaine leur gueule dessus pour qu'ils y aillent, et tu reçois des appels radio facultatifs, en fait.
C'est là, justement, où je trouvais que le jeu demandait énormément, en fait, en termes de MJ, c'est que t'avais besoin d'avoir une espèce de boîte à idées en permanence, en fait. Dès que t'avais un coup de mou, tu devais balancer un 12-18 pour que les gens...
T'es dans une mégalopole, en fait, donc t'es censé faire vivre une mégalopole, tu vois.
Ouais, c'est ça.
Et c'est super compliqué, quoi. C'est comme dans un pavillon noir où tu veux faire vivre un équipage, il faut qu'il y ait plein de gens, etc. Là, t'es dans une ville où quand ton flic il sort dans la rue, c'est jamais anodin, quoi.
Mais voilà, il se passe jamais rien, en fait. Toujours un truc.
Il y a toujours un truc. Alors, bien sûr, c'est pas forcément des criminels ou des gens qui se tirent dessus, etc. Mais tu peux avoir ta maman qui vient t'apporter des beignets pendant que t'es en pleine planque, tu vois, ou tu vas dans un quartier où, en fait, t'es un ancien membre de gang, et en fait, il s'est passé inaperçu, donc tu veux pas qu'ils te reconnaissent, mais en même temps, si t'es habillé en cops, les mecs, ils peuvent mal le prendre, c'est des gangsters, quand même, t'as des cops qui viennent chez eux. Enfin, tu vois, c'est peut-être que tu les cherches et que, voilà.
Ouais, donc effectivement, t'as quand même plein de situations qui sont intéressantes.
Ouais, puis bon, après, il y a aussi le racisme américain, bah, les armes en vente libre, puis voilà. Mais ça crée aussi vraiment quelque chose de très intéressant, parce que bon, bah, je te dis, tu pars, je te dis, sur une enquête dans Skid Row, par exemple, où on dit qu'il y a trois putes qui ont été massacrées par un connard à coup de couteau. Tu y vas, ça te fait un peu chier parce que tu sais que c'est que trois putes et que tout le monde s'en bat les couilles, tu vois. Alors, c'est mal de dire ça, oui, tu vois, mais je parle en tant que personnage. Tu sais que tu vas faire ça alors qu'en fait, tu as une enquête qui est en cours où là, il s'agit de trafic d'enfants violés, tu vois. Et ah, mais qu'est-ce que tu fais, etc. Alors,
c'est là où c'est super intéressant, c'est qu'au final, tu te rends vite compte dans le jeu que tu vas devoir mener plusieurs fronts en même temps, en fait.
Et ça, c'est un autre souci du jeu, c'est qu'en fait, en 3 jours, tu résous donc 5 enquêtes, t'as 5 enquêtes en cours, et t'as l'impression que la police nationale, si elle travaillait autant que les cops, si tu veux, les mecs, bah, ils dorment plus, quoi, je veux dire, c'est la folie.
C'est ça, le problème.
Mais, bon, là, on les résout, en fait, hein, parce que dans la police nationale, souvent, ils sont obligés de mettre le papier dans le dossier, et puis d'attendre que, tu vois, l'administration qui suive tout ça. Là, tout s'enchaîne. Et c'est vrai que c'est compliqué, en fait. Et je vois les yeux à Gomelon qui brille. T'aimerais tester un de ces jours Cops avec nous?
Non, mais c'est vrai que ça donne envie de découvrir, quoi. Enfin, surtout, alors, les enquêtes, du coup, c'est quoi? T'es plutôt sur de l'investigation ou t'es sur plutôt des trucs Starkey Hutch où tu vas foutre sur la gueule et puis voilà?
Bah, y a tout, en fait. Alors, c'est ça qui est bien, c'est que, tu vois, on est une équipe, enfin, le COPS, pardon, est une équipe entre le bleu de base, donc celui qui fait les patrouilles, qui mange des beignets, qui attend au coin de rue que les choses se passent bien, qui pense qu'il y a une chose, c'est rentrer chez lui le soir, tu vois, pour voir sa femme et ses enfants, qui veut rentrer vivant, tu vois. Toi, t'es le COPS, donc t'es un peu plus investi, mais en même temps, t'es pas le SWAT, t'es pas la super équipe qui intervient juste pour faire un coup de snap et qui rentre chez elle après, quoi. Donc t'as l'investigation. C'est souvent l'équipe, en fait, peut décider hein, de demander une enquête, mais bon, tu peux aller à un endroit où les bleus t'ont appelé parce qu'ils ont besoin de quelque chose de renfort, tout ça. Et en même temps, en revenant de cette enquête-là, tu peux te faire appeler parce qu'il y a une prise d'otage dans un supermarché, quoi. Alors là, tu peux décider de t'arrêter ou pas. En même temps, t'es COPS, quoi.
Oui, par logique, pas, en fait.
Non, mais laisse faire, c'est quelqu'un d'autre qui gère, quoi. Tu vois, ça la fout mal, donc tu vas essayer de le faire. Donc, du coup, bah, si tu prends une balle, par exemple, tu pourras pas participer à la première enquête. Puis après, il faut que tu fasses un papier administratif pour expliquer pourquoi tu as fait des heures sup à ce moment-là, tu vois. Parce que, bien sûr, il y a l'administration qui rentre en jeu.
Ça, c'est juste parfait, en fait, je trouve, dans le jeu, mais
alors,
c'est chiant.
C'est tellement bien fait que ça devient trop chiant, comme dans la réalité, en fait. T'as vraiment enfin, ça, c'est vraiment les auteurs, ils ont vraiment géré ça de ouf, quoi. T'as l'administration derrière ton cul et ça te pète le fion, mais à longueur de temps, quoi. Tu dois demander une subvention, tu vois, pour avoir, je sais pas, une bagnole de fonction, tu vois. Le MJ sadique peut te dire, bah non, mais faut remplir tel formulaire, etc. Bah, y a plus de voiture de fonction de service, en fait. Celle qu'on vous a donnée la semaine dernière. Bah, en fait, j'ai poursuivi 12 gangsters, je les ai tous arrêtés, mais ils ont pété ma bagnole. Ah bah ouais, mais maintenant, vous y allez à pied, quoi, tu vois. Ou on va te donner un cheval, par exemple. Puis tu vas faire tes patrouilles à cheval, enfin, tu vois, des trucs de ouf, quoi. Pareil pour les... Ouais.
Non, mais j'allais dire, pour le coup, en plus, t'as les comment s'appelle, les formations.
Les stages. Ah, attends, merci. J'y arrive après, etc. Mais voilà. Alors, t'as le côté chiant hein, de l'administration, mais après, donc, t'as des personnages, par exemple, qui ont des spécialités, ça va être bureaucratie, etc. Enfin, moi, j'ai joué un personnage comme ça, tu vois. Ma spécialité, quand même, c'était détourner des subventions, de serrer des mains pour que monsieur le maire accorde une certaine enveloppe à tel commissariat, donc à telle unité de COPS. Donc on avait quand même un écran géant dans le bureau du capitaine pour regarder les matchs de football, quoi, tu vois. Et je crois qu'il y avait une petite arcade.
Oui, il y avait un flipper et une salle de muscu,
voilà,
aussi.
Tu vois, enfin, il y en a qui se démerdent mieux, voilà. Et tout ça, c'est grâce à une chose, c'est les stages. Qu'est-ce que les stages? En fait, dans l'XP que tous les jeux connaissent, hein, donc tu gagnes de l'XP après avoir réussi tes missions, tu peux augmenter tes caracs ou tes compétences. Mais là, il y a un truc en plus, c'est que tu peux envoyer un membre de l'équipe en stage. C'est-à-dire qu'avec l'XP, tu décides... Alors, on en a à la création, bien sûr, hein, mais c'est pour expliquer là. Bah, par exemple, que le personnage de Zef, on trouve que, en fait, ça serait bien qu'il sache conduire en vitesse accélérée, tu sais, dans les rues de Los Angeles pour pouvoir poursuivre les criminels. Donc, on peut lui payer un stage de formation
de
où
conduite.
Il va apprendre de conduite. Enfin, de vraie conduite, hein, attention, conduite sportive, etc., tu vois. Et il part, il va apprendre son petit stage, donc c'est un peu comme de l'XP, mais en plus avec un petit pouvoir particulier qu'un autre n'aura pas. Et t'as plein de stages comme ça qui sont décrits, qui sont vraiment, vraiment fun, tous utiles à un moment ou à un autre. Parfois, l'humour un peu lourd et potache, mais bon, ça c'est particulier.
Ouais, c'est du croque, quoi. Parce que généralement, les voilà, stages sont assez cool, mais par moments, c'est un peu lourd. Hein.
C'est un peu lourd, mais bon, ça
savoir
c'est vraiment...
Savoir serrer des mains et lécher des couilles, comme ça.
Lécher
des huîtres ou...
Lécher des huîtres ou je sais plus, enfin bon, c'est pas très...
C'est un peu gras, quoi. C'est du croque, il faut...
Voilà,
faut
mais
connaître.
Après, voilà, t'as aussi le stage punching ball ou interrogatoire, où t'apprends à faire plus un de dégâts.
Oui, voilà.
Ouais, des trucs comme ça, mais c'est vraiment marrant. Ou matraquer les gens dans la rue.
Oui.
C'est pour assurer la sécurité des citoyens.
Bien sûr.
Voilà. Enfin, tu vois, c'est vraiment marrant parce que tu peux vraiment donner une image à ton personnage. Tu vois, tu peux dire, bah, j'ai fait tel stage, etc. Moi, mon dernier perso fait 2 heures de muscu tous les matins. Faut pas le faire chier. C'est lui qui fait des plaquages de ouf, mais il fait 2 heures de muscu tous les matins parce qu'il a fait la formation qu'il fallait.
Il est obligé de faire ça maintenant tous les jours.
Il est obligé de faire ça. Il a avec un lance-roquettes désarmé qu'il a récupéré chez lui. Enfin bon. Après, voilà. Donc, enfin, tu vois un peu l'image du jeu, voilà. Et t'as vraiment, ouais, sinon t'as vraiment l'investigation, mais tu vois, c'est un peu, voilà. Comme je te dis, en investigation, mon personnage est à chier en investigation, voilà.
Mais voilà,
donc, je suis un super cops.
Ouais, c'est un gros bourrin, mais
je suis un gros bourrin et je suis sur un lieu de crime et en fait, bah, c'est gentil, mais je sais rien faire. Enfin, quand je fais des jets de dés, si tu veux, sur le scène de crime, bah,
Je vois rien.
Je vois rien, quoi. Je suis au courant de rien, etc.
Toi, tu sécurises le...
Bah, c'est pas à moi de sécuriser. En tant que cops, t'as quand même les bleus, tu vois, qui sont là pour, bah, tu sais, mettre la bande jaune, pour interdire aux gens d'entrer. C'est pas toi qui le fais, normalement.
En fait, c'est là où le problème, enfin, tu l'as dit en début, finalement, ouais. Mais le problème du jeu se fait, c'est que c'est un jeu d'optimisation pure et dure. C'est que chaque perso doit avoir sa spécialité pour faire avancer le groupe, quoi qu'il arrive. Tu peux pas tout faire toi-même de toute façon, tu peux pas être le meilleur investigateur, tu peux pas être le bon interrogateur, tu peux pas être le bon combattant. T'es soit mauvais partout, enfin soit moyen partout et ça sert à rien, soit très bon quelque part et finalement il faut que quelqu'un d'autre puisse prendre la main sur autre chose au moment où ça arrive.
Ouais, ça s'est toujours passé comme ça. Après, il y a peut-être ce côté aussi que quand tu regardes les personnages, on est quand même tous inspirés des choses,
séries.
Hein. Voilà, des séries ou des films hein, et que bon, on a tous une. Enfin, on va vraiment personnaliser notre personnage justement d'une certaine manière quoi. Je veux dire, le mien, j'ai pris Mr. T en exemple, tu vois.
Oui, j'allais dire, mais c'est l'agence touriste que votre
mais
truc...
Oui, ouais, mais c'est presque ça, en fait. Tu vois, souvent, dans les différentes campagnes ou scénarios que j'ai fait, t'avais toujours un gars qui était super balèze à la conduite, il y avait un gars qui était super balèze au castagnage de tête ou à l'interrogatoire, il y avait celui qui était un peu filou, etc. Celui qui se démerdait très bien en administration, qui avait plein de contacts partout, tu vois, mais chacun avait son petit... Oui, c'est vraiment ça, l'agence touriste, en fait.
Ouais, finalement, c'est ça. C'est bien, Jimmy. Bravo, Gomelon.
Bravo, Gomelon, tu vois.
Du coup, tu dois jouer maintenant pour voir.
Voilà, mais bon, voilà, donc c'est l'agence touriste chez les cops, mais voilà, il y a quand même... Voilà, pourquoi on parle du jeu, hein, voilà, je reviens à ça, c'est que t'as une ambiance autour de la table qui est vraiment, vraiment sympa. La plupart, enfin, toutes les parties où j'ai fait, en fait... Même s'il y a des défauts, donc des règles ou de l'enquête, hein, je te dis, parce que des fois c'est chiant quand tu es sur une enquête, tu dois en faire une autre. T'as toujours une ambiance autour de la table qui est vraiment sympathique, où tout le monde comprend de quoi les autres parlent. Enfin, tu vois, c'est vraiment le moment où tu dis que t'as passé une bonne soirée. Donc c'est un bon jeu.
Ah, clairement, ouais, à chaque partie de COPS que j'ai faite, même avec des gens que tu connais pas du tout autour de la table, ça devient très vite très sympathique en fait.
Ouais, c'est ça, parce que t'as toujours ce retour. Enfin, tu sais, tu peux jouer ton perso, donc même si tu connais pas le mec en face, t'as la même profession, tu vois, tout le monde va dans le même sens. Alors après, il y a le mec, quand il t'invite chez sa maman et qu'en fait il te sort un paquet de dope, t'es obligé de lui expliquer que je suis ton capitaine et qu'on va expliquer ça au commissariat. Mais en même temps, tu te dis, mais faut pas que ça se sache. Parce que si les médias tombent là-dessus, en fait, toute mon équipe est foutue parce que sa réputation t'a mort. Donc tu vas cacher ça. Donc...
Ouais, t'as vraiment le problème.
Voilà,
de...
tu vois, t'as plein de choses qui suivent, en fait, et qui peut être chiante au bout d'un moment. Parce que c'est vrai qu'au bout d'un moment, t'aimerais bien que les missions, enfin, les enquêtes s'arrêtent, que tu puisses passer à autre chose, etc. Alors que ça s'enchaîne tout le temps. Voilà.
Ouais. C'est bon, à un moment, il était très en vogue. Je me souviens, dans pas mal de tournois de jeux de rôle que je faisais, il était très en vogue sur ça. Et justement, parce qu'il est très complet en termes de bac de jeu, c'est-à-dire t'as vraiment, on me disait, on a l'administratif, faut faire des rapports de mission, faut faire des trucs, donc t'as plein de choses qui sont super intéressantes. Et si t'as un MJ qui est très enquête poussée sur le détail, tu peux te permettre de faire un truc vraiment vraiment un peu à la Sherlock, assez bien sympa quoi.
Ah oui, ça c'est vraiment, enfin c'est l'orientation du scénario et à beaucoup de enfin il y a beaucoup d'orientations possibles. Hein. C'est oui effectivement tu peux carrément mettre une équipe de cops, donc une table de joueurs, sur une enquête super importante. Et oublier tout ce qui est que intervention dans les supermarchés, etc.
Ouais,
ou à l'inverse, si tu vois que tes joueurs sont plus fans de Colors ou les films des années 90 là, avec les gangs, etc., tu peux les mettre juste à faire des tournées dans la rue, parce qu'on gère un peu les contacts aussi dans le jeu, hein, c'est important. Donc tu vois, tu as tes contacts, tu peux aller voir un mec que tu connais qui t'explique qu'en fait il y a son petit neveu, il s'est mis à vendre de la drogue, ce serait bien que tu l'arrêtes avant que les flics lui tirent dessus, donc tu vas le voir. Enfin tu vois, tu as beaucoup de possibilités qui se mélangent et le jeu, voilà. Ça.
Ok, bah écoute, merci beaucoup pour cette bonne présentation. C'est... COPS, donc un jeu édité par...
Cirrhose, Oriflamme, selon
d'accord, qui ne doit plus être très disponible aujourd'hui maintenant, mais faut pas hésiter à vous trouver, c'est une petite... Moi j'aime beaucoup ce jeu hein, perso, donc n'hésitez pas si vous tombez dessus. Je veux dire merci à vous deux pour cette émission qui se termine sur
merci
ça.
Merci à toi,
merci, voilà. Je vous rappelle donc que la Ligue des joueurs ordinaires est une émission produite par Radio Kawa. Donc vous pouvez nous retrouver sur radiokawa.com/vrac, donc dans la section vrac. Nous sommes aussi sur Facebook, la Ligue des joueurs, et sur Twitter, bien sûr, ce sont des comptes qui sont très actifs aujourd'hui. On n'hésitera pas à les regarder et à tweeter de temps en temps. Je tiens à remercier personnellement Inks qui met toujours cette émission en ligne quand moi je suis occupé à faire plein de choses le week-end, donc merci encore à lui. Et on vous dit à dans un mois au Fige, en direct du Fige, enfin un direct, un semi-direct, hein, toujours pareil, on sera là-bas on dirait, en vrai, mais on enregistrera sur place, mais voilà. Donc voilà, dans un mois au Fige, on s'amusera, on fera plein de jeux et on vous parlera de tout ça. Merci à vous deux et à ciao ciao.
Bye bye.
Bye.
Ok, Trus, vas-y, bro, si c'est pour toi, si tu écoutes cette émission, yo.
On dit souvent que tout était mieux avant. Qu'en pensez-vous, Papy Groublin ?
C'est vrai, c'est vrai. Tout était beaucoup mieux avant. À l'exception de la difficulté de l'accès à la musique japonaise.
Coucou, c'est Amo. Kaorin, c'est le podcast musical dédié à la culture visuelle japonaise. Générique et soundtrack d'anime, JRPG, visual novel, toutes les époques, tous les genres, que vous soyez otaku ou non. Kaorin, votre podcast musical d'1h30 sur la culture visuelle japonaise, c'est sur Radio Kawa.
Puis on n'avait pas de Doujin Hentai ni Zekai non plus.
Mais arrête, Pépé.